On s'est toutes et tous déjà retrouvés dans cette situation, hein. Une conversation qui déraille complètement,
Ah oui?
où l'on a l'impression que personne ne comprend ce que l'autre dit, un malentendu qui prend des proportions énormes.
Totalement. On est là physiquement, mais notre cerveau, lui, il est déjà à 10 km en train de préparer la réplique parfaite.
C'est exactement le sujet de notre analyse aujourd'hui. L'art et aussi la science de l'écoute. On a épluché un ensemble de guides pratiques, des extraits de formation qui promettent tous un peu la même chose, hein, nous transformer en auditeurs exceptionnels.
Une belle promesse.
Oui. Donc la mission, c'est de déballer tout ça pour en extraire des stratégies concrètes, des changements d'état d'esprit qui peuvent vraiment améliorer notre écoute au bureau comme à la maison. L'idée, c'est de passer du mode entendre passivement.
Juste percevoir les sons.
C'est ça, à comprendre activement un message.
Et ça, c'est un changement de philosophie complet. D'ailleurs, les sources qu'on a consultées, elles sont unanimes sur un point. Tout commence bien avant que le premier mot soit prononcé.
Oui, c'est ce qui m'a surprise. On pense écoute et on imagine tout de suite des techniques de conversation. Mais non, d'après ces documents, le point de départ, c'est l'état d'esprit. L'une des sources prend cet exemple brillant, la fameuse phrase « Il faut qu'on parle
Ah, la phrase qui tue.
». Voilà. Rien que de l'entendre, on sent la tension. Instantanément, notre dialogue intérieur s'emballe, on imagine le pire, et hop, toutes nos défenses se lèvent.
C'est un réflexe quasi pavlovien. Notre cerveau passe en mode menace détectée. Et cet état d'esprit défensif, il agit comme un filtre incroyablement puissant qui bloque toute nouvelle information.
On est en mode panique.
On est tellement occupé à anticiper le coup, à préparer notre défense ou notre contre-attaque, qu'on n'est plus du tout réceptif. Les sources soulignent que nos suppositions, qui sont très souvent fausses d'ailleurs, nous font tout interpréter à travers ce prisme négatif. On est coincé, quoi.
Mais c'est tellement humain comme réflexe. Comment on fait pour le court-circuiter? On ne peut pas juste décider de ne plus être sur la défensive quand on se sent attaqué, si...
C'est une excellente question. Et c'est là que la préparation mentale intervient. Plutôt que de subir ce réflexe, les guides proposent de consciemment adopter un état d'esprit ouvert et neutre.
D'accord.
Et les avantages sont multiples. Évidemment, on comprend mieux ce que l'autre dit. Mais plus profondément, ça nous permet de ressentir de l'empathie, ce qui désamorce énormément de situations. Et ce qui est fascinant, c'est que ça a un effet sur nous-mêmes.
Comment ça, Sam?
Ça calme nos propres émotions. Et même nos signaux non-verbaux. Notre corps arrête de crier « danger ». Le focus passe de « comment je vais répondre » à « qu'est-ce que cette personne essaie réellement de me dire
D'accord, donc on prépare le terrain mentalement. Pour aider à ça, les documents proposent une sorte de checklist mentale à garder en tête. Le premier point paraît presque trop simple.
». Oui.
C'est « suis-je vraiment en train d'écouter ?» J'imagine que dans 90% des cas, la réponse honnête serait « non, pas vraiment ».
C'est exactement ça. C'est un rappel à l'ordre. Le deuxième point, c'est peut-être le plus difficile. Est-ce que je fais des suppositions? Si oui, il faut activement les mettre de côté, les garer mentalement, pour pas qu'elles polluent l'écoute.
Ensuite, il y a la question de l'ouverture. Suis-je prête à apprendre quelque chose de nouveau, ce qui implique d'accepter qu'on a peut-être tort au fond?
Un exercice d'humilité.
Complètement. Puis une question plus introspective. Suis-je consciente de mon état physique et émotionnel? Si on sent son cœur qui s'emballe, l'idée c'est de prendre une seconde pour respirer, se calmer.
Et le dernier point ouvre la perspective « suis-je attentif aux autres ?» C'est un rappel que la personne en face a, elle aussi, son propre état d'esprit, ses propres angoisses. Ce n'est pas juste un adversaire. Cette checklist, même si on ne la passe pas en revue point par point, elle crée une intention, l'intention d'être présent.
Une fois qu'on a posé cette intention, cette base mentale, on peut s'intéresser à la pratique. Et une distinction qui revient sans cesse dans ces guides, c'est la différence entre entendre et écouter. Ça paraît évident, mais en creusant, la différence est énorme, non?
C'est la différence entre un processus passif et un processus actif. Entendre, c'est biologique. Nos tympans vibrent. Écouter, c'est une compétence. C'est un acte volontaire d'analyse, de compréhension. Et pour passer de l'un à l'autre, les guides proposent en gros quatre pratiques fondamentales. La première, c'est ce qu'ils appellent l'écoute ciblée.
C'est-à-dire?
Le principe, c'est de forcer son attention à se concentrer uniquement sur ce que dit l'interlocuteur et pas sur la réponse géniale qu'on est en train de formuler dans sa tête.
Ah oui, on connaît tout ça.
Exactement. Pendant que l'autre parle, on peaufine déjà notre argumentaire. l'écoute ciblée, c'est l'anti-ça. Et les bénéfices sont énormes. On est mieux informé, on évite des erreurs et, de façon assez contre-intuitive, on renforce son influence. Parce qu'en comprenant vraiment l'autre, on est bien mieux armé pour négocier.
La deuxième méthode est sans doute la plus évidente, mais aussi la plus bafouée aujourd'hui. Accorder toute son attention. C'est l'expérience du dîner avec le téléphone posé sur la table.
Le classique.
Même s'il ne s'allume pas, sa simple présence est une distraction, une promesse d'interruption.
C'est un signal très fort qu'on envoie. Ça dit « ce que tu me dis est important, mais potentiellement moins qu'une notification ». Ça tue la connexion. Les conseils sont basiques, mais essentiels. On coupe les appareils, on ferme les onglets, et si on doit prendre des notes, on le fait sur papier.
Ah oui, c'est vrai.
Le simple fait d'utiliser un stylo, ça montre un engagement différent.
Le troisième point m'a beaucoup intéressé, c'est l'idée d'écouter plus que parler. Les sources parlent de rapport écoute-parole. Elles donnent même des chiffres, genre viser 70% d'écoute pour 30% de parole. Est-ce que ce n'est pas un peu artificiel de penser en pourcentage ?
C'est une excellente question. Il ne faut pas le voir comme une règle mathématique à suivre avec un chronomètre, tu vois. C'est plutôt un guide mental, un objectif conscient. Le simple fait de se dire « Ok, là, mon but, c'est d'écouter plus », ça change radical dans notre posture.
On se retient d'intervenir.
Voilà, on est moins pressé, on laisse des silences s'installer, et c'est souvent là que les infos les plus importantes sortent. C'est un outil pour rééquilibrer notre tendance naturelle à vouloir occuper l'espace, quoi.
C'est un bon garde-fou. Et la dernière méthode fondamentale, je la trouve assez poétique, il l'appelle l'écoute corporelle. L'idée, c'est d'écouter avec ses oreilles, oui, mais aussi avec ses yeux, son esprit et son cœur.
Et ce qui est fascinant, c'est que le non-verbal est souvent plus honnête que les mots. Une mâchoire qui serre, des yeux qui fuient, ces signes peuvent révéler une intention que le discours essaye de masquer. Écouter avec son corps, c'est être attentif à toute cette info non dite.
Et ça marche dans les deux sens, hein. Notre propre corps doit montrer qu'on écoute. Les sources sont très concrètes là-dessus. Se tourner face à la personne, ne pas croiser les bras.
Adopter une posture ouverte, exactement. Et aussi utiliser des signaux non-verbaux. Hocher la tête, un léger sourire. Ce n'est pas de la comédie.
Non, bien sûr.
Ces signaux disent à l'autre « Continue, je suis avec toi. Ce que tu dis a de la valeur. » Et quand une personne se sent écoutée, elle communique beaucoup plus clairement. C'est un cercle vertueux.
D'accord. Donc, on a préparé notre état d'esprit, on a la bonne posture. Mais quid des mots? C'est là que ça se complique. Les sources parlent beaucoup d'écoute active. Ça sonne un peu comme un terme à la mode, mais les outils sont en fait incroyablement précis.
L'écoute active, comme ils la décrivent, c'est vraiment une approche structurée pour garantir la compréhension mutuelle et surtout pour bâtir la confiance. C'est ce qui distingue un bon auditeur d'un communicant exceptionnel.
Le premier outil de cette boîte, c'est sans doute le plus connu. Paraphraser. Répéter ce que l'autre a dit avec nos propres mots. Mais j'imagine qu'il y a un risque que ça sonne un peu mécanique ou même condescendant, non?
C'est un risque, oui, si c'est mal fait. Le but n'est pas de reformuler pour prouver qu'on est intelligent. Le but est de vérifier.
D'accord.
La clé est dans la formulation. Donc, si je comprends bien, ce que j'entends, c'est que c'est une demande de confirmation, en fait. On donne à l'autre l'opportunité de corriger notre interprétation. C'est un acte d'humilité.
Vu comme ça, ça change tout. La deuxième technique, c'est de poser des questions ouvertes, celles qui ne se répondent pas par oui ou non.
Mm-hmm.
Ça semble simple, mais je pense que la tentation est grande de poser des questions qui orientent déjà la réponse, du genre « Tu ne penses pas qu'on devrait plutôt faire ça ?» Ce qui n'est pas vraiment une question, en fait.
C'est un piège classique. Une vraie question ouverte commence par qui, que, quand, où, pourquoi, comment. Elle montre une curiosité sincère. Au lieu de « Est-ce que le projet est bloqué ?», on va demander « Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer sur ce projet ?»
Ça ouvre la conversation au lieu de la fermer.
C'est exactement ça.
Il y a une troisième technique que j'ai trouvée presque trop simple. La répétition ou la question miroir. L'idée, c'est de reprendre un mot ou une phrase clé. L'exemple dans le guide est frappant. Quelqu'un dit « Je veux une promotion ». La réponse est juste « Une promotion ». Est-ce que ça marche vraiment, ça?
C'est d'une efficacité redoutable. Ça produit deux effets. Premièrement, ça montre que ce mot précis a retenu ton attention. Deuxièmement, ça crée un léger vide, une invitation à élaborer. Face à une promotion, la personne va presque automatiquement expliquer pourquoi. C'est très doux comme approche.
C'est subtil. Bon, ces premiers outils sont déjà très puissants. Mais les sources vont encore plus loin, avec des stratégies qui touchent vraiment à l'intelligence émotionnelle. La première, c'est nommer les émotions. Et là, je pense que c'est un terrain miné pour beaucoup.
C'est délicat, en effet. Il s'agit de verbaliser l'émotion qu'on perçoit. Et la formulation est absolument cruciale. Le piège, c'est de l'affirmer comme une vérité. Dire à quelqu'un « vous êtes en colère ».
C'est une accusation ?
Exactement. La personne peut se braquer, même si c'est vrai. Les sources insistent sur l'utilisation de formules qui partent de notre propre perception. « J'ai l'impression que… »« vous semblez… » On dirait que cette situation est frustrante pour vous.
C'est la différence entre accusé et invité.
C'est ça. On ne dit pas « voici ce que vous êtes », on dit « voici ce que je perçois ». Ça offre une porte de sortie. La personne peut confirmer ou nuancer, et dans les deux cas, on a ouvert un dialogue sur l'émotion sous-jacente.
La technique suivante va un peu dans le même sens. L'utilisation des messages « je » pour dire quelque chose de potentiellement conflictuel sans être agressive. Un problème personnel avec ce client. Et la version message, j'ai l'impression que vous en avez personnellement assez de ce client. Le fond est le même, mais la forme change tout.
Tout à fait. La première phrase est un jugement. La seconde est le partage d'un ressenti. Elle est non conflictuelle parce qu'elle ne prétend pas détenir la vérité. Elle exprime notre point de vue, ce qui est incontestable, et invite l'autre à partager le sien.
Et pour finir, il y a la technique que l'une des sources appelle joliment la cerise sur le gâteau, le récapitulatif.
C'est le bouquet final de l'écoute active. Après avoir écouté, paraphrasé, questionné, on termine en résumant en deux ou trois phrases les points clés. Et un bon récapitulatif doit inclure trois choses. Les faits, le problème et les sentiments qui y sont liés.
L'exemple donné est très clair. Face à un collègue qui se plaint, on pourrait dire « Donc, si je résume, vous pensez que ce client se plaint sans cesse, le fait, vous êtes frustré par la situation, l'émotion, et du coup, vous ne voulez plus travailler avec eux le problème. C'est bien ça ?»
C'est la confirmation finale. Ça montre qu'on n'a pas seulement entendu les mots, mais qu'on a compris l'ensemble de la situation de son point de vue. Ça valide son expérience et ça garantit qu'on est sur la même longueur d'onde avant de chercher des solutions.
Le parcours est impressionnant quand on y pense. On est parti d'une idée très intérieure, l'état d'esprit, pour finir avec des outils presque chirurgicaux comme le récapitulatif ou la nomination des émotions.
Et ce qui est important de retenir, c'est que l'application de tout ça, ça transforme les conversations. Il ne s'agit pas juste d'être plus efficace au travail. Il s'agit de créer des liens plus forts, de gagner le respect et de désamorcer les conflits avant même qu'ils n'explosent.
On passe à un autre niveau de communication.
On passe d'une communication de surface à une connexion réelle et profonde.
C'est un changement majeur. Et pour terminer, une pensée qui m'est venue en lisant tout ça, toutes ces sources se concentrent sur comment écouter les autres. Mais je me suis demandé, que se passerait-il si on appliquait ces mêmes techniques à notre propre dialogue intérieur?
C'est une question très profonde, ça.
Et de se poser des questions ouvertes, sans jugement. Pourquoi est-ce que cette peur revient? Qu'est-ce qu'elle essaye de protéger? Comment une écoute active de soi-même pourrait-elle changer la façon dont on se comprend et finalement dont on se traite? Voilà, c'est une piste à explorer.